RCF. RCF, il est 19h. Le journal, Jean-Baptiste Labeur.
Bonsoir à toutes et à tous. La crise de la gouvernance du rugby français. Bernard Laporte démissionne à la tête de la Fédération française. Nous ferons le point dans un instant. Dans l'actualité également, c'est une plaie pour les médecins. Les lapins posés par les patients. 27 millions de rendez-vous médicaux ne sont pas honorés chaque année. Nous évoquerons également dans ce journal la nuit des témoins. C'est ce soir, nuit consacrée aux martyrs chrétiens. Cerné par les affaires et désavoué par les clubs, Bernard Laporte a donc démissionné ce matin de la présidence de la Fédération française de rugby. C'est une figure centrale de l'Ovalie depuis plus de 20 ans qui s'éclipse. Mais le rugby français est en crise à 7 mois d'une Coupe du Monde à domicile. Grégoire Chindre.
Bernard Laporte était sur la sellette depuis le mois dernier et sa condamnation à 2 ans de prison avec sursis pour corruption. L'ancien sélectionneur des Bleus s'était mis en retrait le temps qu'il soit rejugé en appel après le Mondial. Mais jeudi, les 1500 clubs de rugby français ont dit non à la désignation de Patrick Buisson, un proche de Laporte, comme président délégué de la FFR. C'est donc ce vote qui a déclenché la démission de Bernard Laporte. Toutefois, son départ ne règle pas tout. La ministre des Sports, Amélie Oudéa Castéra envisageait une démission collective du comité directeur de la fédération pour embrayer sur de nouvelles élections générales. Sauf que les membres de la majorité du comité directeur ne comptent pas pour leur part démissionner, estimant, je cite, « n'avoir rien à se reprocher ». A l'inverse, les 9 membres de l'opposition et 2 représentants de la Ligue nationale de rugby se sont, eux, retirés.
Et maintenant, Grégoire, qu'est-ce qui va se passer ?
Eh bien, un nouveau bureau fédéral pourrait se réunir en milieu de semaine prochaine pour proposer un candidat issu de ses rangs au poste de président par intérim. Ce candidat sera ensuite proposé vendredi prochain au vote du comité directeur, seulement 2 jours avant le début du tournoi des Six Nations.
Merci Grégoire. J'ajoute que la Ligue nationale de rugby estime ce soir que la solution d'un président délégué n'est pas la bonne. Concernant cette fois les Jeux Olympiques de Paris 2024, on a appris aujourd'hui le retrait du comité d'organisation de Jean-Philippe Gassien, ancien médaillé olympique de tennis de table. Il se retire pour des raisons personnelles. 4 mineurs de 13 ans vont être jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné un suicide. Celui du jeune Lucas, un adolescent de 13 ans qui a mis fin à ses jours début janvier dans les Vosges. C'est ce qu'a annoncé ce soir le procureur de la République. Selon ses parents, Lucas s'était suicidé le 7 janvier dernier car il était harcelé à l'école en raison de son homosexualité. 4000 référents spécifiquement formés à la maltraitance animale vont être mis en place dans les commissariats et les gendarmeries. En déplacement dans une SPA d'Île-de-France, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé qu'ils seront chargés de prendre les plaintes et d'enquêter sur ces violences. Satisfaction ce soir de Jean-Charles Fonbonne, il est président bénévole de la SPA.
Justement, ça va dans le sens de ce qu'on demande depuis très longtemps, c'est l'implication de l'État. Si vous l'avez noté, la protection animale repose surtout et quasiment exclusivement sur l'action que portent des associations de droit privé comme la nôtre, comme la SPA. Et là, on a un véritable engagement de l'État avec des choses qui sont tout à fait concrètes. La protection animale a besoin à un moment donné de la force publique pour pouvoir faire respecter ses idées, pour pouvoir faire respecter la législation. Ça va permettre de fluidifier notre action.
Et les agents référents dans les commissariats et les gendarmeries sont formés par des bénévoles de la SPA. Un des anciens patrons de la filiale française d'IKEA, Jean-Louis Bayot, de nouveau condamné en appel, cette fois à 4 mois de prison avec sursis et une amende de 20 000 euros. C'est l'affaire, souvenez-vous, d'espionnage d'une centaine de salariés entre 2009 et 2012. Justice toujours, le procès en appel d'Alexandre Benalla pour les violences du 1er mai a été renvoyé aujourd'hui à sa demande pour raison de santé. L'audience se tiendra finalement le 9 juin prochain. deux grandes oreilles et un poil soyeux, les lapins font le bonheur de tout le monde, sauf des médecins. Je voudrais parler des vrais lapins, mais bien sûr, des rendez-vous qui ne sont pas honorés. Selon le Conseil national de l'Ordre des médecins et l'Académie de médecine, 27 millions de rendez-vous sont ainsi zappés par les patients. Cela représente près de 2 heures de consultations perdues toutes les semaines, quelle que soit la spécialité. Conséquence, cela limite l'accès aux soins pour des patients qui en ont vraiment besoin et cela contribue à engorger les urgences. Pour les deux institutions, au-delà des oublis et des empêchements en dernière minute, ces créneaux perdus sont surtout le signe d'une déconsidération pour l'acte médical, considéré désormais comme un bien de consommation, situation aggravée selon eux par les plateformes comme Doctolib. Écoutez Patrice Tranbahui, ancien chef du département ORL de l'hôpital de la Riboisière et ancien président de l'Académie nationale de médecine.
Doctolib est effectivement une entreprise tout à fait géniale, parce que répondant effectivement à une demande indiscutable. Parce que, comme vous le savez, il y a une pénurie de généralistes, ça vous le savez aussi bien que moi, il y a actuellement des gros problèmes, beaucoup de patients n'ont plus de médecin traitant. Autrement dit, il n'y a plus de parcours de soins tel qu'il est souhaité. Le problème, c'est que par la facilité même avec laquelle les gens peuvent désormais prendre rendez-vous, cela a dû une dérive. Les gens consomment des actes médicaux comme ils consomment des produits manufacturés. Voilà. Et ce que nous souhaiterions mettre en place, c'est un versement symbolique, mais même 10% du prix de la consultation, mais au moins que les gens soient responsables.
Santé toujours, ça bloque encore entre le gouvernement et les médecins libéraux. Un nouveau mouvement de fermeture des cabinets est prévu pour le 14 février, ainsi qu'un rassemblement unitaire à Paris ce jour-là devant le Sénat. Un appel à la grève inédit aujourd'hui chez Ubisoft. Le géant français des jeux vidéo connaît une crise depuis l'annonce mi-janvier de l'abaissement de ses prévisions pour l'année 2023, des difficultés économiques mais aussi des problèmes de harcèlement moral et sexuel. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est un mail en début d'année du patron de l'entreprise, Yves Guillemot, qui annonce devoir faire des ajustements structurels et qui fait craindre des licenciements et des augmentations de la cadence de travail. Pourtant, le secteur des jeux vidéo n'a pas vraiment l'habitude de manifester, Margot Emmerich.
Et pour cause, quand on intègre une boîte comme Ubisoft, la plupart des jeunes salariés le disent, la pression et la charge de travail font partie du job. En témoigne cette fameuse expression bien connue dans le monde du jeu vidéo, le crunch, cette période de travail intense qui précède la sortie d'un nouveau jeu. Francis est adhérent du tout récent syndicat des travailleurs des jeux vidéo. Il dénonce une pression insidieuse dans le milieu.
Les heures supplémentaires sont pas ouvertes, donc sont pas rémunérées. Le fait d'avoir un objectif qui est très difficilement atteignable, on se met la pression à nous-mêmes en se disant que si on fait pas bien notre travail, c'est les autres personnes de l'équipe qui vont devoir le faire à notre place. Et c'est de la pression qui est assez implicite, assez tacite, parce qu'en fait, tout le monde a envie que le projet soit qualitatif à la fin.
Mais ce qui a vraiment motivé la grève, c'est ce mail du PDG, quand les salariés reprochent un manque total de démocratie en interne.
Il y a eu beaucoup de projets qui ont été soit décalés, soit annulés. Et du coup, le message, c'était que c'était à nous, les équipes de production, de serrer la ceinture, de travailler plus pour le même tarif et de se donner à fond pour redresser la boîte. En fait, nous, on a très peu de décisions. On décide très peu du contenu des jeux, de comment c'est fait, etc. Et au final, c'est nous qui devons payer les pots cassés alors qu'on savait que ça allait pas marcher.
Les salariés d'Ubisoft qui demandent également des augmentations de salaire à minima à hauteur de l'inflation.
Le travail a repris dans les ports et raffineries aujourd'hui, mais du côté de l'énergie, la CGT a mené de nombreuses actions un peu partout en France. Les grévistes ont fait passer en gratuit des établissements publics qui ne bénéficient pas du tarif régulé du gaz ou de l'électricité, des lycées, piscines ou encore hôpitaux. Par ailleurs, près de 7000 amendements ont été déposés sur le projet de réforme des retraites par les différents groupes à l'Assemblée nationale. Le début de l'examen du projet de loi débute lundi. Le congrès du Parti Socialiste s'est ouvert à Marseille aujourd'hui sur fond de règlement de compte sur la canebière avec les accusations réciproques d'irrégularité entre le sortant Olivier Faure et son adversaire Nicolas Meyer-Rossignol. Le dialogue n'est pas rompu encore, mais le climat est électrique et le spectre d'une nouvelle hémorragie plane au-dessus de la cité phocéenne. Ça c'est pour les symptômes. Si on pose un diagnostic pour expliquer la crise actuelle, eh bien le PS manquerait d'une base idéologique, estime Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques à l'Université de Lille.
C'est un parti qui n'est plus audible, qui revendique une culture de gouvernement, mais en fait, on ne sait pas très très bien ce qu'il met derrière cette culture de gouvernement, qui en fait a du mal à exister comme un parti porteur d'une alternative. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui le socialisme ? Du coup, c'est un parti qui a aussi a perdu son identité idéologique. C'est un parti qui ne réfléchit plus, qui est replié sur ses fiefs locaux. C'est un parti où il n'y a pas vraiment de débat idéologique. Or, aujourd'hui, la gauche a besoin de se reconstruire et le PS ne peut pas simplement dire qu'il est critique vis-à-vis de Hollande ou qu'il est moins à gauche que Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est pas ça, une reconstruction idéologique. Ça veut dire aujourd'hui quelle position claire sur les retraites, quel rapport au travail, quel rapport à la mondialisation, quel rapport à l'Europe. Le PS a un projet, mais ce projet, il est encore incertain et puis il faut aussi qu'il le défende.
Le congrès du Parti Socialiste se tient jusqu'à dimanche à Marseille. Dans l'actualité internationale, l'Union européenne a décidé aujourd'hui de prolonger de 6 mois les sanctions contre la Russie. L'armée russe, elle, a déclenché une offensive contre la ville de Vouglodar dans le Donbass. Enfin, la Pologne va livrer une 60aine de chars supplémentaires à l'Ukraine. La moitié seront une version modernisée du T-72 soviétique. La France demande à Israël et aux Palestiniens de s'abstenir d'alimenter l'escalade après des frappes aujourd'hui de l'armée israélienne sur la bande de Gaza en réponse à des tirs de roquettes sur Israël au lendemain d'un raid israélien meurtrier en Cisjordanie. L'AED, l'aide à l'église en détresse, organise ce soir sa 14e nuit des témoins, une veillée pour faire mémoire des martyrs contemporains. C'est un temps de prière ponctué de témoignages. Durant la soirée, les noms des chrétiens tués dont l'année seront égrenés. 360 millions de chrétiens sont persécutés et discriminés à travers le monde. Ce soir, à l'église Saint-Sulpice à Paris, 3 personnes témoigneront de leurs difficultés. Parmi elles, sœur Marjorie Boursicot, religieuse salésienne haïtienne. En Haïti, la population est chrétienne à 90%, mais les gangs armés sèment la terreur.
Ben, l'église est à une place prépondérante dans la population et les évêques, malgré les difficultés, malgré les dangers, ils prêchent le dialogue, la réconciliation. L'église intervient dans divers domaines. Il y a l'éducation, la santé, l'agriculture. Et c'est l'unique institution qui tient. C'est juste que dans cette violence généralisée et qui touche toutes les couches de la société, nous aussi, d'une façon ou d'une autre, nous sommes victimes. Mais c'est pas facile, mais nous ne pouvons pas nous laisser vaincre par la peur. Et donc, on fait de son mieux avec beaucoup de difficultés, je dois dire. C'est depuis l'assassinat du président, tout le monde s'était rendu compte que personne n'est en sécurité en ce pays, quoi.
La nuit des témoins, c'est à suivre ce soir sur notre antenne à partir de 20h en direct de l'église Saint-Sulpice à Paris.